Technique. L'appli mobile totalement gratuite et enrichie de nouvelles fonctionnalités vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
8h10 en temps universel, 9h10 ici à Paris. Bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de la tentative présumée de coup d'État au Burkina Faso. Un putsch était-il en préparation? En tout cas, depuis une semaine, 12 militaires et civils sont détenus pour avoir planifié un projet de déstabilisation des institutions de la République. Très peu d'informations filtrent du côté des autorités, mais plusieurs sources sécuritaires évoquent le rôle du lieutenant-colonel Zungrana dans ce projet de coup de force. Alors êtes-vous surpris par cette tentative présumée de putsch? Que vous inspirent ces suspicions? Faut-il y voir un malaise au sein de l'armée? On en parle évidemment ce matin, c'est notre débat du jour. 33 9 693 693 70, et comme tous les jours, vous le savez, je vous attends sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, 20 minutes pour vous permettre de mieux comprendre l'actualité, vos questions sur tous les sujets qui ne vous laissent pas indifférents. On va commencer en parlant de la situation dans la région du Tigré, en Éthiopie, où les combats se poursuivent. Bonjour Moussa.
Bonjour Juan, comment allez-vous?
Bah écoutez, ravi de dialoguer avec vous. Vous nous appelez de Bangui en Centrafrique. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Ok, merci. En Éthiopie, le gouvernement continue ses opérations de frappe aérienne malgré les annonces du Premier ministre en faveur d'un apaisement. Alors Juan, comment expliquer ce regain de violence alors qu'à la fois le gouvernement fédéral et les forces armées tigréennes ont exprimé leur volonté d'engager des pourparlers?
Oui, c'est vrai que le conflit se poursuit dans cette région du nord de l'Éthiopie. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
Correspondante régionale de RFI, on a du mal à comprendre effectivement la position du Premier ministre, lui qui continue les combats, alors qu'il y a 10 jours, comme le rappelait à l'instant Moussa, il avait lancé un appel à la réconciliation nationale.
Oui, alors il faut dire déjà qu'Addis Abeba ne reconnaît pas être en train de mener ses frappes aériennes au Tigré, qui entre en effet en contradiction avec certains discours du Premier ministre. L'intérêt de ces frappes pour les autorités fédérales, c'est en fait de continuer à maintenir la pression sur le TPLF et à réduire les capacités militaires du mouvement sans prendre le risque de perdre des hommes. D'après un décompte humanitaire, ces bombardements ont tué au moins 202 civils depuis la mi-octobre, mais ils ciblent également les stocks d'artillerie du TPLF, des maisons de leaders tigréens ont également été visées, et cela, je le disais, sans engager d'hommes sur le terrain, parce que les semaines qui ont précédé le repli des Tigréens, l'armée fédérale a perdu beaucoup d'hommes, même si elle ne le reconnaît pas volontiers. Or, le Tigré est une région de montagnes arides, avec un ennemi habitué à la guérilla. C'est donc un terrain très hostile pour les forces fédérales où elles risqueraient non seulement de perdre des hommes mais aussi de tomber dans des embuscades et ainsi permettre au TPLF de récupérer certains stocks d'artillerie. On l'a vu par le passé, c'est notamment ce qui avait permis aux Tigréens de s'armer pour leur contre-offensive. Donc utiliser ces drones permet à Addis Abeba de préserver ses troupes et disons d'éviter de donner l'opportunité au TPLF de reformer sa guérilla.
Ouais. Est-ce que ça signifie, Florence Maurice, que les gestes d'ouverture du Premier ministre, des gestes qui ont été posés comme l'annonce d'un dialogue national ou encore la libération de prisonniers politiques, que finalement tout ça c'est de la façade?
Ben, ça montre surtout, Juan, qu'on est en fait dans une phase très incertaine et très ambivalente. C'est vrai que certains partenaires internationaux de l'Éthiopie ont jugé que la situation actuelle était plutôt propice à d'éventuels pourparlers, puisque pour la première fois, il faut le dire, depuis le début du conflit, les deux parties sont quasiment cantonnées dans leur territoire respectif, ce qui est une condition préalable à toute négociation. Néanmoins, les spécialistes de l'Éthiopie restent très prudents vigilants sur ces annonces. Hein. Si on parle par exemple des libérations, vous avez peut-être entendu sur nos antennes de RFI la semaine dernière le chercheur Mehdi Labzaï expliquer que les personnes libérées sont pour l'essentiel des gens qui n'avaient plus vraiment de responsabilité à l'intérieur du TPLF et que donc ce geste, hein, s'il est fort symboliquement, ne permet pas pour le moment de présager l'ouverture de négociations avec les Tigréens à ce stade.
Moussa, vous avez une autre question.
Oui, la frontière du conflit semblait être stabilisée. Est-ce que ces frappes peuvent permettre une avancée de l'armée éthiopienne au Tigré ?
Ah, l'état des forces sur le terrain, Florence Maurice.
Alors pour le moment, hein, on assiste à des accrochages de faible intensité sur les différents fronts au Tigré, mais rien qui fasse réellement bouger les lignes, rien de significatif. Depuis un mois environ, les positions sont plus ou moins les mêmes. Fin décembre, Abiy Ahmed avait expliqué qu'il ne poursuivrait pas le TPLF à l'intérieur de la zone où il s'est replié. Hein, on vient d'en parler. De son côté, le TPLF semble avoir fait le choix pour le moment de privilégier la défense de sa région et donc d'y concentrer ses forces, et ce d'autant plus que les Tigréens se disent sous la menace d'une nouvelle offensive érythréenne. Hein. Asmara combat aux côtés d'Addis Abeba dans cette guerre. Il y a quelques jours, le président érythréen a affirmé vouloir neutraliser le TPLF qu'il présente comme une menace pour l'existence de son pays. Donc finalement, est-ce qu'on assiste aux prémices d'une véritable négociation ou à une énième trêve, hein, avant une nouvelle reprise des hostilités? Malheureusement, c'est pas très clair pour le moment, sans oublier, il faut le signaler, hein, ce blocus humanitaire total sur le Tigré, ce qui est évidemment un point de blocage important à toute négociation.
L'analyse de Florence Maurice, correspondante régionale de RFI à Nairobi. A-t-on répondu à vos questions, Moussa ?
Oui, je suis satisfait. Merci vraiment à Florence Maurice.
Eh bien, merci à vous de votre fidélité. Vous nous rappelez quand vous le souhaitez. On est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi à 8h10, temps universel. On repasse au standard. Tiens, des questions après la démission surprise, c'était vendredi, du premier vice-président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Anne Gomez, bonjour à tous, bonjour à tous vos auditeurs.
Et merci de nous appeler d'Ariwara, c'est au nord-est de la RDC, non loin de la frontière avec l'Ouganda. Vos questions, Jean-Baptiste.
Bien exactement. D'accord, merci beaucoup. Ariwara se situe dans la province de l'Ituri, bien évidemment. Oui. Alors la question en RDC, Jean-Marc Kaboun, on le sait tous bien, a annoncé sa démission de vice-président de l'Assemblée nationale. Alors on a en tout cas deux questions seulement à vous poser, je vais les poser coup par coup.
Allez-y.
Pour quelles raisons Kaboun a-t-il démissionné? Est-ce que cette démission est-elle un symbole, en tout cas, d'un clivage au sein de l'UDPS?
L'UDPS, qui, faut-il le rappeler, le parti présidentiel, et Jean-Marc Kaboun en est le président intérimaire. Bonjour Trésor Kibongula.
Bonjour.
Vous êtes analyste politique au groupe d'études sur le Congo. C'est donc sur Twitter, vendredi, que Jean-Marc Kaboun a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, sans véritablement donner d'explication.
Oui, il n'y a pas eu d'explication, Juan, mais il faut savoir que cette démission intervient à peine 48 heures après une expédition punitive des éléments de la garde républicaine au domicile de M. Kaboun, qui est aussi, vous l'avez rappelé, président tout-puissant intérimaire de l'UDPS, le parti présidentiel. Pour rappel, la veille de cette expédition punitive, des policiers de la garde de Kaboun s'étaient comportés une fois de plus en justicier de la route, en arrêtant de manière musclée un militaire de la garde républicaine qui roulait en sens contraire, croisant ainsi le cortège de M. Kaboun qui était bloqué. Ils avaient déjà fait la même chose avec le pneu du véhicule de la belle-mère du président de la République, dans les mêmes conditions, nous apprenons, autour du chef de l'État. Mais au-delà de ces faits de justicier de la route, c'est une décision, c'est une démission, si elle se confirme, hein, parce qu'on attend encore que la lettre soit déposée au bureau de l'Assemblée nationale. Les journées de samedi 15 et de lundi 17 janvier étaient fériées au Congo, donc on attend que cette démission soit déposée. Alors si cette démission se confirme, ce serait justifié par une accumulation d'attitudes un peu embarrassantes de Jean-Marc Kaboun. Il s'est comporté comme le vrai héritier de Tien Tshisekedi, le père de l'actuel chef de l'État. Il agit comme celui qui est tout puissant. Il serait à la base ou l'auteur même de déboulonnement de l'ancien système Kabila qui était en place, oui. Si Félix Tshisekedi a pu recouvrer toutes les marges de manœuvre, ce serait grâce à lui.
Oui, c'est vrai qu'on dit qu'il a joué un rôle essentiel dans la formation de l'Union sacrée, cette coalition autour du président Félix Tshisekedi. On dit que c'est un personnage, certes populaire auprès de la base UDPS, clivant parce qu'il se comporte comme s'il avait trop de pouvoir. Mais on a quand même du mal à comprendre pourquoi démissionne-t-il. Est-ce qu'il est sous pression ou est-ce que ce n'est pas plutôt, Trésor Kilamboula, et ça ne vous a pas échappé à mon avis, peut-être le silence du président de la République, le silence du gouvernement, le silence du président de l'Assemblée nationale après le saccage de sa résidence. Est-ce qu'il ne se dit pas « on est en train de me lâcher »
Il sait qu'il y a un malaise qui commence à persister depuis quelques temps entre lui et les chefs. On dit même qu'il ne s'appelle plus ces derniers temps. Et on sait aussi que c'est vraiment touché, c'est un couac de trop touché au service de sécurité. On sait comment est-ce que ces pouvoirs sont en train de se mettre en place. Le pouvoir Kabila est parti, l'armée a accepté de jouer le jeu. Aujourd'hui, Kabound essaie de toucher au service de sécurité. Alors peut-être ce serait la goutte qui fait déborder aujourd'hui le vase et il sait qu'il a été en train d'être lâché par le chef de l'État. Et l'auditeur parlait de choix des démissions, mais il semble de plus en plus qu'il s'agisse plutôt d'une injonction à démissionner, parce qu'on parle même d'une injonction à quitter même le poste de président à l'intérim de l'UDPS.
Ouais, Trésor Kibongula, le temps passe très très vite. Est-ce que cette démission, si elle est évidemment confirmée, ne représente pas, on va dire, un clivage au sein de l'UDPS, une fracture au sein de ce parti?
Cela montre bien entendu qu'il y a un malaise entre Félix Tshisekedi son homme de pouvoir, c'est lui qui était exécutant un peu des ordres de Tshisekedi, Jean-Marc Kabound. Mais tout dépendra aujourd'hui de la suite que Kabound donnera à son départ annoncé du bureau de l'Assemblée nationale. Va-t-il quitter l'UDPS? Et sera-t-il capable de recruter et de constituer un noyau de fidèles au sein de lui, qu'il puiserait au sein de l'Union sacrée? Là, il y a des questions qui se posent parce qu'hier encore, plusieurs députés de l'Union sacrée ont estimé leur désaveu et à annoncer leur fidélité, attachement au président Félix Tshisekedi.
Et on aura l'occasion d'en reparler très certainement vendredi dans la Libre Antenne avec les auditeurs. Jean-Baptiste, a-t-on répondu à vos questions?
Merci Juan Gomez, les questions t'ont répondu. Et merci à Kibongula et merci aussi à vous de cette opportunité.
Et bonne journée donc dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Trésor Kibongula, bonne journée à vous également. Analyste politique au groupe d'études sur le Congo. 9h23 à Paris, Marie-Amélie Motte du service des sports de RFI nous rejoint. Bonjour Marie-Amélie.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
On a des questions sur l'affaire Djokovic. Sidik souhaite revenir sur ce feuilleton qui enfin, j'ai envie de dire, enfin se termine. Bonjour Sidik.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes en Côte d'Ivoire, à Issia.
Oui, à Issia. Oui. Dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire.
Soyez le bienvenu sur RFI, on vous écoute.
Juan, tout le monde sait que Novak Djokovic ne participe pas finalement à l'Open d'Australie car il n'est pas vacciné. Alors, ma première question, sa participation à d'autres grandes compétitions telles que le Masters est-elle compromise?
Ah, c'est une bonne question, Marie-Amélie Motte. À quoi va ressembler le reste de la saison de Djokovic?
Alors, ça s'annonce un petit peu compliqué, parce que oui, sa participation aux autres tournois de la saison est compromise. Alors, on va prendre les tournois du Grand Chelem par ordre chronologique. Le prochain rendez-vous, c'est Roland-Garros en France à la fin du mois de mai. Depuis hier, le gouvernement est très clair. Tous les sportifs, français ou étrangers, professionnels ou amateurs, tous doivent être vaccinés contre le Covid pour pouvoir entrer en France et y pratiquer leur sport. Il n'y aura pas d'exception. Le ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer, s'est montré très explicite hier à la télévision. Donc impossible pour Novak Djokovic de venir disputer Roland-Garros s'il n'est pas vacciné. Un mois plus tard, place à Wimbledon, au Royaume-Uni. Pour l'instant, pas d'obligation vaccinale à la frontière, mais le Premier ministre Boris Johnson y est favorable. Donc ça risque peut-être de changer d'ici l'été. Et enfin, l'US Open à New York fin août, pas de suspense. Djokovic ne pourra pas y aller. Il faut être vacciné pour entrer aux États-Unis. Voilà pour les les tournois majeurs. Clairement, voilà, sans vaccin, la quête d'un 21e titre en Grand Chelem s'annonce compliquée. Et puis, même pour les autres tournois, par exemple, la tournée américaine au printemps, les Masters d'Indian Wells de Miami, Djokovic ne pourra pas y aller.
Oui, il faut être complètement vacciné pour rentrer aux États-Unis.
Voilà, ça, il n'y a pas de doute. En fait, maintenant, si vous voulez, l'équation est simple. Djokovic va devoir choisir entre ses convictions intimes, ce qu'il juge bon pour sa santé, et son envie de continuer sa carrière au plus haut niveau.
Ouais, autre question, Sidik.
Oui, la deuxième question, peut-il perdre sa place de numéro 1 mondial?
Ah, va-t-il perdre la première place du classement ATP? Maintenant qu'il ne jouera pas, ne dispute pas l'Open d'Australie.
Ah bah alors oui, il peut la perdre complètement dès la fin de l'Open d'Australie dans deux semaines. Si jamais Daniil Medvedev ou Alexander Zverev s'imposent, Medvedev c'est le numéro 2 mondial, l'un des leaders de la nouvelle génération. C'est lui qui a battu Djokovic l'été dernier en finale de l'US Open. Et puis Alexander Zverev, il est allemand, il a 24 ans, il fait aussi partie de la nouvelle génération. Il peut très bien s'imposer à Melbourne dans 15 jours. Voilà, en gros, plus globalement, moins Djokovic disputera des matchs, plus il dégringolera au classement.
À suivre donc tout au long de la saison. Merci beaucoup, Marie-Amélie Motte. Bonne journée. Sidik, à bientôt, j'espère.
Ok, merci.
Rappelez quand vous le voulez. Merci à vous, bonne journée. Il est 8h26 en Côte d'Ivoire. Robert, soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Alors, vous avez entendu sur RFI que Joe Biden, le président américain, voulait mettre en place une réforme électorale.
Oui, le président Joe Biden a annoncé vouloir mettre en œuvre une réforme du système électoral visant à protéger l'accès au vote pour les minorités. Sur ce, j'ai quelques questions, Juan. En quoi le vote des minorités est-il menacé aux États-Unis? Quelle réforme Joe Biden envisage-t-il pour protéger le droit de vote des minorités?
Oui, Joe Biden. Joe Biden qui veut, dit-il, protéger l'exercice du droit de vote des minorités, particulièrement des Afro-Américains. Bonjour Françoise Coste.
Bonjour.
Historienne, professeure d'études américaines à l'université Toulouse Jean Jaurès. En quoi le droit de vote des minorités est-il aujourd'hui menacé aux États-Unis?
Alors, il n'est pas menacé sur le papier. Sur le papier, tout le monde a le droit de voter. Enfin, tous les adultes majeurs ont le droit de voter aux États-Unis. Il est menacé dans les faits, d'une manière, dans la logistique du vote, si vous voulez, ou au plan local, parce que le vote est organisé au plan local aux États-Unis. Beaucoup d'États républicains conservateurs ont mis en place depuis ces dernières années une multitude de mesures pour rendre le droit de vote plus difficile, l'accès au vote plus difficile, en particulier dans les quartiers pauvres. Et dans les quartiers pauvres, il y a plus de Noirs qui habitent. Donc, c'est par exemple fermer des bureaux de vote dans un quartier où il y en avait 5, il n'y aura plus que 2. On sait aussi que le jour du vote aux États-Unis, c'est le mardi. Donc, les gens travaillent. Donc, c'est très difficile pour les gens qui travaillent de partir du travail, de faire la queue pendant des heures parfois pour aller voter. Donc, il y a des endroits où on a, pour régler ça, on a mis en place le vote par correspondance ou le vote anticipé. Pendant 15 jours avant le vrai jour du vote, on peut aller déposer son bulletin. Bon, dans les quartiers noirs, on va diminuer la longueur du vote anticipé, où on va empêcher le vote par correspondance. Voilà. Ou encore, c'est pour les gens qui votent le jour même, on va les obliger de montrer une carte d'identité avec une photo pour être sûr que c'est bien la vraie personne qui vote.
Et donc, du coup, que veut faire Joe Biden alors?
Alors, il veut, en fait, refaire ce qui avait été défait par la Cour suprême, parce que tout ça, c'était illégal jusqu'à il y a quelques années, quand la Cour suprême a dit que c'était finalement possible. Donc, il veut revenir en arrière et réguler tout ça au niveau fédéral, justement. Basculer d'une organisation locale des élections à une organisation nationale. C'est-à-dire que chaque fois qu'un État veut prendre ce type de mesure, fermer un bureau de vote, modifier le calendrier du vote anticipé, par exemple, l'État qui veut faire ça devra envoyer sa proposition à Washington, au ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice devra vérifier que ces mesures, par exemple, ne ciblent pas particulièrement des quartiers noirs. Et donc, devra valider ou pas, accepter ou pas, la modification. Donc voilà, ce serait une centralisation du vote afin que Washington puisse protéger les électeurs dans les quartiers les plus pauvres et les plus noirs.
Et il veut notamment, puisque vous en parliez, Françoise Coste, que le jour du scrutin soit désormais un jour férié. En tout cas, les chances de faire passer cette réforme sont quand même assez minces. Joe Biden a déclaré il y a quelques jours, en parlant de cette réforme, « J'espère que nous y arriverons, mais j'en suis pas sûr ». sûr. On suivra ça dans les prochains jours, puisque évidemment le Sénat doit se prononcer sur ce projet de réforme. Merci infiniment Françoise Coste d'avoir été avec nous, professeur d'études américaines à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Robert, bonne journée à Lomé. Vous restez tous évidemment à l'écoute de RFI, tout de suite le journal, et on revient dans 10 minutes pour parler du Burkina Faso. Un coup d'État était-il en préparation ? Vos réactions, vos analyses nous intéressent, le standard reste ouvert. A tout de suite.